Silcast présente la revue de presse, thème du jour géopolitique, avec Alex et Marc. Bonne écoute.
5 semaines de cessez-le-feu Iran-États-Unis, et déjà le New York Times raconte que Trump s'est fait briefer samedi sur les options militaires pour reprendre les frappes. En parallèle, Israël bombarde le sud Liban quelques heures après avoir prolongé sa propre trêve avec Beyrouth. Donc on est très clairement dans la phase « la trêve tient avec du scotch ».
Et il faut lire ça en parallèle de la visite de Trump à Pékin, dont rencontre le Guardian. Trump qui sort de Zhongnanhai en disant à Hannity « Je ne serai pas beaucoup plus patient avec l'Iran ». Sur le même voyage, il déclare avec Xi qu'ils veulent la même chose. Pas de nucléaire iranien, détroit d'Hormuz ouvert. Donc le message envoyé à Téhéran, c'est « Même les Chinois ne te couvriront pas indéfiniment sur Hormuz ».
Sauf qu'Hormuz reste fermé. Et entre-temps, un cargo indien a été coulé au large d'Oman cette semaine. L'idée que Trump puisse rouvrir le détroit par une deuxième série de frappes, c'est exactement ce qui inquiète les pays du Golfe. Et là, l'article du Grand Continent, par Aziem El-Difraoui, est assez frappant.
Oui, ce papier est important. Le titre « Le miracle du Golfe a-t-il encore un avenir ?» n'est pas du tout rhétorique. Ce qu'il documente, c'est qu'en 5 semaines de guerre, 1000 projectiles iraniens sont tombés sur les pays du Golfe. Pas seulement sur des bases américaines, des hôtels, des usines de dessalement, des infrastructures pétrolières, et que Trump a lancé l'assaut contre Téhéran sans même prévenir Riyad ou Abu Dhabi.
Ça, c'est l'élément vraiment nouveau pour moi. On savait que les golfiens étaient mécontents. Mais l'idée que le parapluie américain ne fonctionne même plus comme parapluie d'information, c'est la fin d'un contrat implicite vieux de 50 ans. Et El-Difraoui ajoute que les Émirats ont quitté l'OPEP le 28 avril. Donc, fracture interne en plus de la fracture avec Washington.
Et il y a une dimension matérielle que l'on sous-estime, soulignée par le ministre italien Antonio Tajani dans sa tribune au Grand Continent. 30% des engrais mondiaux transitent par Hormuz. Le Soudan, déjà en famine, va être étranglé. Tajani propose une coalition de Rome pour la sécurité alimentaire. C'est du Tajani classique, très diplomatique. Mais le constat est juste. La crise d'Hormuz n'est pas régionale. C'est un choc alimentaire pour l'Afrique.
Tajani, je le trouve quand même un peu confortable. Il dit « la voie diplomatique reste la seule possible ». Il rappelle que Téhéran ne doit pas avoir l'arme nucléaire, mais il ne dit pas un mot sur le fait que ce sont les États-Unis et Israël qui ont déclenché la guerre en frappant les premiers. Comme si la situation était tombée du ciel.
C'est de la réelle politique italienne. 40% du PIB italien part à l'export. Il défend ses usines. Tu peux trouver ça cynique, mais c'est exactement ce qu'un ministre des Affaires étrangères est censé faire. Et le fait qu'il pousse une coalition navale défensive sur Hormuz, c'est concret, c'est votable.
Et c'est justement là que l'article d'Alimi dans le Diplo fait mal. Parce que le pendant français de Tajani, c'est Jean-Noël Barrot. Et Alimi documente comment Barrot a refusé 5 fois de suite sur France Inter de qualifier de disproportionné les bombardements israéliens au Liban. Il a même cité Golda Meir. « Nous ne pouvons pas leur pardonner de nous forcer à tuer leurs enfants. »
Alimi tape fort, comme toujours. Mais le fait factuel, c'est-à-dire 525 cargaisons d'équipements militaires français livrés à Israël entre octobre 2023 et mars 2026 selon Le Monde, ça c'est imparable. Et la chute est ironique. Israël annonce le 31 mars qu'il ramène à zéro ses achats français. La France a fourni, encaissé les humiliations et se fait répudier.
La diplomatie à plat ventre, c'est bien trouvé. Et ça pose une question politique sérieuse. À quoi sert d'avoir reconnu la Palestine en novembre, si c'est pour, dans la foulée, s'aligner sur les buts de guerre israélo-américains en Iran, refuser des visas à des défenseurs des droits humains, et laisser une députée macroniste proposer de criminaliser l'antisionisme?
Sur ce point, je te suis. Reconnaître la Palestine 148e, c'est déjà tard. Mais accumuler ensuite les gestes compensatoires envers Netanyahou, c'est de la diplomatie qui ne tient pas debout. Soit on assume la reconnaissance et on la fait vivre, soit on ne la fait pas. Là, on a le pire des deux.
Et on n'a même pas parlé du tribunal spécial pour juger l'agression russe en Ukraine, annoncé vendredi par le Conseil de l'Europe. 36 pays, plus l'UCOMEMA, plus le Costa Rica et l'Australie. L'Humanité titre sur la phrase d'Alain Berset « Le moment où la Russie devra rendre des comptes approche ».
C'est une avancée juridique réelle. La CPI ne peut pas juger la Russie pour crime d'agression parce que Moscou n'a pas signé le statut de Rome. Ce tribunal spécial comble ce trou. Concrètement, en l'état, Poutine, Lavrov et Michoustine restent protégés par l'immunité fonctionnelle pendant leur mandat. Mais l'instruction peut commencer, et après le mandat de Poutine, les poursuites deviennent possibles.
Donc en Paris, cela prépoute, c'est long.
Le droit international, c'est long, mais c'est un signal politique massif. 36 pays disent qu'agresser un voisin ne sera plus jamais sans conséquences juridiques. Et ça change le calcul des futurs dirigeants. Habermas dirait que c'est la lente sédimentation de la norme.
Pendant qu'on sédimente, il y a un papier vraiment glaçant dans Le Grand Continent par Benoît Thiolin et Pierre Vallet sur la guerre informationnelle. Il raconte une scène à Kiev avec Volodymyr Solovyan qui dirige le Hybrid Warfare Analytical Group. Pendant l'entretien, sirène, un MiG-31 russe décolle, peut-être avec un Kinjal. Personne ne bouge. Solovyan termine sa phrase et continue.
La phrase clé du papier, c'est « Nous ne sommes déjà plus en paix, mais dans un état que l'Europe n'a pas encore nommé. » Et le chiffre qui tue, la France met 20 à 25 millions par an contre la désinformation. La Russie dépense 2 milliards de dollars sur sa propagande internationale, 25 fois plus.
Et même quand on triple le budget en 2026, on reste à un huitième. C'est un combat asymétrique, perdu d'avance si on ne change pas d'échelle. Et les auteurs montrent bien que ce n'est pas un problème de budget seulement. C'est doctrinal. Viginum, SGDSN, ISI, DGSI, DSA, FIMI, chacun dans son silo. Personne ne couvre la zone grise entre l'action cinétique et la bataille cognitive.
C'est le legs des doctrines de guerre froide où terre, mer, air étaient séparés. L'hybride traverse tout et nos institutions sont construites en couches étanches. Là encore, ce qui peut être voté mardi prochain, c'est une coordination interministérielle réelle, pas un 15e acronyme.
Si on résume la journée, Trump qui menace de rallumer la guerre Iran, le Golfe qui se demande sérieusement s'il reste un avenir au modèle Dubaï, la France qui se fait répudier par Israël après l'avoir armée, et la Russie qui continue sa guerre cognitive avec 25 fois nos moyens. Pas mal pour un dimanche.
Et un tribunal spécial qui s'installe à Strasbourg. C'est peut-être la seule bonne nouvelle. On se retrouve demain.